Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Karine Galli.
Bonsoir à tous, bienvenue en direct des États-Unis d'Amérique. Oui, ça c'est assez classe quand même de dire ça. Il est 21h chez nous et en France, il est évidemment 3h du mat, les gars.
3h du mat.
Tard ou tôt, ça dépend comment tu le vois.
3h du mat.
3h du mat. Et évidemment, on embrasse toutes les personnes qui rentrent de soirée ou qui se lèvent avec nous pour aller travailler. Ils sont là en pleine forme. Walid Acherchour qui va faire un enchaînement après
toujours
Nico Jamin. Tout va bien ?
Tout va bien, tout va bien. On se régale.
Toujours
se régale.
Pas de fatigue ?
Non, toujours pas. On est armé.
Et notre américain, alors il est luxembourgeois, oui. Mais en fait il a tout d'un américain, donc c'est un peu compliqué. C'est Maxime Chanot, tout va bien?
J'ai tout d'un américain parce que je suis aussi américain, Karen.
Mais pourquoi t'as pas essayé de jouer pour les États-Unis d'Amérique?
J'ai fait le choix du Luxembourg et j'en suis très fier d'ailleurs.
T'as fait le choix ou c'est ton niveau footballistique qui a fait le choix pour toi?
Alors, tu veux que je te dise la vérité?
C'est le choix du cœur ou le choix sportif?
C'est le choix du cœur.
Le choix du cœur. C'est tout ce qu'ils disent.
C'est mieux de dire ça, non? L'histoire est plus belle.
Oui, mais ça sonne faux.
C'est pas le choix des sous, non, peut-être?
On s'est très peu qualifié dans les grands tournois, tu sais, avec le Luxembourg. Bon. Non, mais je pense qu'il y a.
Oui, mais il y a des meilleurs placements peut-être au Luxembourg qu'aux États-Unis.
Ah, mais ça.
Pour sa fortune personnelle.
On est sur RMC ou.
Ou sur BFM Business.
Les gens veulent tout savoir. On est ensemble pour 2 heures de direct. On va parler évidemment de la journée. Il y a eu ce premier match avec le Mexique qui a réussi ses débuts face à l'Afrique du Sud. On parlera du deuxième match de cette première journée de compétition aux États-Unis entre la Corée du Sud et la Tchéquie. La carte postale des Bleus, parce que les Bleus, vous le savez, préparent leur compétition. Première journée d'entraînement. Jusqu'à présent, ils étaient tranquilles, ils étaient arrivés à Boston. Là, ça y est, ils ont pris la direction du centre d'entraînement qui s'appelle Bentley. C'est très chic, ça aussi. Et puis, on parlera des États-Unis parce que demain, le deuxième pays organisateur va entrer en lice. Aujourd'hui, on a eu le Mexique et on aura donc les États-Unis qui vont jouer demain. Messieurs, on va revenir évidemment sur ce qui s'est passé aujourd'hui et on va aussi se tourner sur le match entre la Corée du Sud et la République tchèque avec ce match. Est-ce que ça vous intéresse quand même, parce qu'on a des stars?
Oui, il y a des stars. Il y a Hugminson qui sera sûrement là. Enfin, on n'a pas encore la composition d'équipe.
On a Lee aussi, notre Parisien.
Exactement. Il y a Lee Kang-in. On a Wang aussi qui avait fait de très belles choses en première ligue à Wolverhampton. Donc, il y a des joueurs intéressants. Et puis, il y a Patrick Schick du côté de la République tchèque qui a toujours été un joueur, un attaquant qui a mis des buts. Il y a aussi
notre Lyonnais Pavel Schul
qui a Souček au milieu de terrain même s'il est descendu avec West Ham cette saison, a toujours été un milieu de terrain intéressant. Donc ouais, il y a des joueurs. C'est pas, après on va pas vendre du rêve aux gens, c'est pas la plus grande affiche de cette Coupe du Monde, hein. Je pense que ceux qui sont en France, s'il y avait un match à zapper pour dormir, ce sera peut-être celui-ci. Mais nous, on est là, on est aux États-Unis, on a la chance d'être debout et de bosser sur ce match-là. Donc il y aura des choses à retirer de ce match-là.
Coup d'envoi dans 1 heure de ce match et on va prendre tout de suite la direction de cette rencontre. Corée du Sud, République tchèque, on l'a dit. Donc c'est le deuxième match de la première journée de compétition et c'est le deuxième match après le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Nous sommes avec Valentin Jamin. Salut Valentin.
Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir pour ceux qui sont en France.
Salut Valentin.
Bonjour, bonsoir. On va dire les
bonsoir,
deux.
Bonjour,
comme ça sera toujours plus simple. Voilà, on va faire un petit clin d'œil au duo Casardroué évidemment. Bonjour, bonsoir. Avec ce Corée du Sud, République tchèque, on l'a dit, il y a des stars évidemment des deux côtés. Il y a des joueurs qu'on connaît bien, notamment des joueurs qui ont évolué dans le championnat de France.
On a oublié Kim du Bayern aussi.
Mais non, je l'ai dit.
Ah, tu l'as dit, je l'ai pas entendu, excuse-moi.
Le défenseur Kim qui est là, effectivement. Donc on va commencer avec la Corée du Sud, avec un homme aussi qui maintenant a un petit peu son pays d'adoption, Son, parce qu'on sait qu'il évolue en Major League Soccer, comme on dit.
Avec qui j'ai joué?
T'as joué?
J'ai joué à Los Angeles.
À Los Angeles.
T'as oublié.
Oui, mais t'as très peu joué à Los Angeles.
Peu, mais joué.
D'accord.
Ouais. J'ai très peu joué avec lui ou à Los Angeles? C'est différent.
Non, avec lui à Los Angeles.
Non, j'ai joué quelques mois, mais super gars, super joueur, honnêtement.
Depuis que t'es parti, il marque plus un but, hein, Maxime.
Mais en tout cas, j'étais très, très étonné par l'humilité de la personne et du personnage, vraiment, quand on connaît un petit peu sa carrière. Bravo à lui. Et j'espère sincèrement qu'il va faire une grande Coupe du Monde chez lui, aux États-Unis, parce qu'on sait qu'il y a une grosse diaspora aussi coréenne, hein, aux États-Unis.
Son qui est présent, tu peux nous donner les compositions d'équipe? On a parlé un petit peu des stars évidemment, est-ce qu'elles sont toutes au rendez-vous?
Oui, celles qu'on attendait sont là. Heung-min Son va mener l'attaque coréenne, 33 ans donc, le joueur du Los Angeles FC, et qui sera du haut de ses 56 buts en sélection, accompagné notamment par Lee Kang-in, le Parisien, à sa droite, et Lee Yae-sung, le joueur de Mayence, à sa gauche. On a pas mal de joueurs coréens qui jouent en Europe hein, quand même. C'est pas le cas du gardien qui joue au Japon, Kim Se-hung. Ils sont trois défenseurs, dans une structure à trois défenseurs. Lee Gi-hyuk, le défenseur central gauche, Kim Minier, donc le joueur du Bayern Munich, dans l'axe, à sa droite, un joueur de Midtjylland, Lee Man-beom, deux milieux de terrain, Wang In-beom de Feyenoord et Paik Sung-ho, qui joue lui en Angleterre à Birmingham. Pour animer le côté gauche, Lee Tae-seok, qui joue lui à l'Austria Vienne, à droite, Seol Young-woo, et donc Lee Kang-in, Lee Yeo-sung, en soutien de Heung-min Son pour la Corée, qui dispute sa 12e Coupe du Monde, qui est quasiment tout le temps qualifiée et qui aimerait bien sortir des poules. C'est l'objectif fixé pour la Corée. Du côté de la République tchèque, on a Pavel Sulc et on a Patrick Schick, les deux qui vont mener l'attaque tchèque. Sulc, le joueur de l'OL, et Patrick Schick, l'attaquant de 30 ans du Bayer Leverkusen. Ils sont accompagnés de Provod, le joueur du Slavia Prague. On s'organise alors soit en 3-4-3, à moins que Zeleny glisse dans le couloir gauche, avec Kovar, le gardien du PSV, dans la cage. Chaloupek, Ranak, le défenseur d'Offenheim, et Krejci, le capitaine, pour la structure à 3. Couloir gauche, on aura donc Zeleny. Couloir droit, Koufal, qui joue aussi à Offenheim. Sulcek, le joueur de West Ham dont Walid parlait, est titulaire avec Soika au milieu de terrain. Et donc Sulc, Provod en soutien de Patrick Schick. Ça fait 20 ans que cette équipe de République tchèque n'a pas disputé de Coupe du Monde.
Merci beaucoup Valentin. On rappelle que ce deuxième match a lieu également au Mexique. Messieurs, le premier avait lieu au stade Azteca. On en parlera tout à l'heure. Ça nous rappelait évidemment beaucoup de moments historiques liés au football. Il y a un favori pour vous évident ou pas?
C'est très très dur. Très très dur parce que c'est deux équipes de continents différents. Où moi je trouve quand même que la Corée a beaucoup plus d'expérience en Coupe du Monde. Ils avaient fait huitième sur la dernière où ils s'étaient fait sortir par le Brésil. Mais ils étaient dans la poule du Portugal notamment. Ils avaient fait une bonne impression. Ils avaient réussi à sortir de cette poule là. Et on vient de le dire, la République tchèque on a plus l'habitude de les voir dans les compétitions européennes entre les Coupes du Monde. Mais en fait, le rapport de force entre ces deux sélections, j'ai du mal à le percevoir et d'avoir une véritable idée, moi.
Ouais, puis c'est toujours compliqué hein, lorsque c'est un premier match de compétition, entrer dans un grand tournoi comme ça, tu sais pas exactement comment les joueurs vont réagir. Il y a énormément aussi de facteurs à prendre en considération. Alors bon, la chaleur visiblement au Mexique, ça peut aller, mais c'est très très important hein, de voir comment justement les joueurs qui ont parfois l'habitude de jouer en Europe vont surtout réagir par rapport à, comme je l'ai dit, tout cet environnement, hein, donc la pression, l'humidité. Et aujourd'hui, encore une fois, t'es dans une compétition où, comme l'a dit très justement Walid, tu sais pas vraiment où tu peux positionner. Par exemple, la Corée du Sud, c'est pas forcément une équipe que t'as l'habitude de voir jouer. C'est un petit peu différent avec la République tchèque, en effet, parce que comme elle se retrouve dans les compétitions en qualification avec l'UEFA, t'as la tendance à les voir un peu plus souvent, en tout cas derrière nos écrans. Mais voilà, écoute, ça va être intéressant de voir justement comment se positionnent ces deux équipes, sachant qu'encore une fois, je pense que dans le groupe, il y a trois équipes qui sont très très homogènes, ça soit donc la Corée du Sud, la République tchèque, le Mexique, l'Afrique du Sud. On a vu que c'était un petit peu derrière, donc les deux équipes ont tout intérêt, en tout cas, très très bien débuter le tournoi, parce que derrière, ils savent que ça va être crucial, en tout cas, de pouvoir prendre des points très rapidement de manière à se positionner pour pouvoir sortir très vite des poules.
On vous rappelle que c'est la première journée de compétition ici aux États-Unis. Le coup d'envoi sera donné à 22h heure États-Unis, heure américaine plutôt, ça sera plus français. Et chez vous en France, le coup d'envoi à 4h du matin. C'est le deuxième match de ce mondial. Oui, Ali, tu
veux? Non, mais j'aimerais bien tester Valentin sur l'équipe coréenne un petit peu, s'il a bien bossé son match, s'il peut nous dire un peu plus sur l'aspect défensif, s'il y a 2-3 anecdotes.
T'as pas trouvé qu'il avait été assez complet?
Ouais, non, je trouve que j'aimerais bien qu'il ait.
Ah, des anecdotes carrément.
Ouais, non, une ou deux anecdotes sur l'aspect défensif, il y a pas parce que
tu veux le mettre dans une ratière, quoi. On a bien compris.
Non, mais on peut y aller. Non, en fait, notamment sur les gros matchs, ce qui a été beaucoup reproché à la Corée, c'est de s'écrouler quand tu, en fait, là, ils ont joué en préparation, par exemple, Salvador et Trinité Tobago. Bon, ils ont gagné sans prendre de but. Par contre, contre l'Autriche, ils perdent 1-0. Contre la Côte d'Ivoire, ils en ont pris 4 récemment. Contre le Brésil, ils en avaient pris 5. Donc, c'est pas une équipe qui est très solide sur les grands rendez-vous et qui, d'ailleurs, au pays, est assez impopulaire, nous dit-on, puisque elle se se rate à chaque fois et surtout il n'y a pas de continuité. On change beaucoup beaucoup de sélectionneurs depuis 2002. Il n'y a pas eu de cycle de plus de 4 ans et on a du mal donc à créer des cycles vertueux et une impopularité vraisemblablement, notamment le président de la fédération qui doit partir après la Coupe du Monde, bon, pour une politique un peu plus globale dans le football, mais aussi parce que la sélection ne convainc pas malgré une progression au classement FIFA. Ils sont 25e, donc c'est pas si mal, mais dès qu'il s'agit de répondre, par exemple même en Coupe d'Asie là récemment, ils se sont fait sortir en demi par la Jordanie, donc c'est quand même décevant quand on est une équipe avec quelques talents qu'on a cités.
On n'est pas sur la Grande Corée
La Corée 2002.
Ouais. Après, quand tu regardes individuellement, il y a quand même du talent dans cette équipe. On l'a dit, il y a des joueurs qui jouent au Paris Saint-Germain. Évidemment, Edmundson, l'ancien capitaine de Tottenham.
Il n'est pas à son prime quand même.
Non, je sais, mais bon, encore une fois, je pense que Walid.
Il n'a pas marqué cette année en club.
Ah ouais, il n'a pas marqué.
Non.
Après, quand tu te retrouves avec des joueurs comme ça, après, tout l'intérêt derrière d'arriver à les faire jouer ensemble. Mais c'est vrai que quand tu regardes individuellement pour une équipe, comme une nation, comme la Corée du Sud, honnêtement, c'est quand même assez.
Après, c'est pas impensif, mais moi, ce que j'aime avec ces équipes asiatiques, notamment la Corée, quand on les avait vus sur les dernières grosses compétitions, c'est très très dynamique, centre de gravité bas, avec des profils quand même qui sont explosifs, avec une qualité technique, avec une intelligence de jeu. C'est aussi athlétique, donc c'est souvent très très gênant de les jouer quand ils sont dans une bonne période, quand ils ont un effectif bien huilé. Moi je me rappelle, mais à la Coupe du Monde 2022, il y a l'Uruguay, le Portugal, et j'ai pas la troisième nation, mais sur le match contre l'Uruguay et le Portugal, ils avaient été très très gênants. Et moi je dirais pas qu'ils sont favoris ce soir, mais le Ghana exactement, je dirais pas qu'ils sont favoris ce soir, mais en tout cas dans mon idée, c'est une équipe qui peut faire mal à cette équipe de la République tchèque.
Ouais, je pense que c'est possible. Quand tu regardes athlétiquement, c'est vrai que c'est une équipe qui est un peu différente, mais surtout tous ces joueurs, ils ont pris énormément d'expérience en Europe. Donc si tu rajoutes un petit peu ce que vient de dire Walid, plus l'expérience que tous ces joueurs ont un petit peu pris en Europe, aujourd'hui ça crée quand même une nation malgré tout, voilà, qui a énormément de qualité. Après on va voir, encore une fois, je l'ai dit, par rapport aux facteurs, comment ils vont rentrer dans cette compétition.
J'attends beaucoup de Lee Kang-in, moi. Oui. Beaucoup de Lee Kang-in, parce que de par son statut, le Paris Saint-Germain, champion d'Europe, même s'il n'est pas titulaire indiscutable, il a quand même, c'est un joueur, c'est une icône, c'est une star mondiale, en tout cas au pays, enfin mondiale, c'est une star nationale, pardon, de par son histoire, le télécrochet, etc., le fait de jouer au Paris Saint-Germain, et moi, mes projecteurs, en tout cas, je vais beaucoup regarder ce que va faire le Parisien.
Mais Valentin, c'est vrai que par le passé, il y a eu des problèmes justement entre les deux stars de cette nation, le capitaine Son et Lee, le Parisien.
Oui, c'est vrai. Alors, je sais plus quelle compétition exactement. Il y avait eu un accrochage, ça avait fait énormément parler entre Lee Kang-in et Heung-min Son. Mais Heung-min Son, honnêtement, il est un peu intouchable dans l'esprit des Coréens. On sent bien que dès qu'on en parle, c'est le capitaine, c'est une légende. Je vous disais 56 buts. Et Lee Kang-in, lui, est plus le talentueux qui est arrivé derrière. Donc là, ça va mieux. Là, il y a plus de conflits. Il y a aussi peut-être quelque chose de générationnel. Il y a 8 ans d'écart. Lee Kang-in voulait peut-être un petit peu prendre la lumière. Mais effectivement, récemment, il y avait eu quelques accrochages. Et encore une fois, ça participe à la mauvaise image de la sélection et de la fédération.
Oui, parce que pour te disputer avec Heung-min Son, il faut vraiment en vouloir, ouais. Je te le dis. Parce que alors, quel homme, en tout cas en parlant d'humilité, moi, vraiment, ça m'a mis une claque. Il est arrivé à Los Angeles en arrivant de Tottenham. Il venait de gagner l'Europa League, rappelons-nous. Donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel en tant que capitaine en plus de cette équipe nationale de Corée du Sud. J'avais été très, très impressionné, hein, je le répète encore une fois, par son humilité, sa manière d'être à l'écoute des autres. Et tu vois, il avait absolument jugé personne en arrivant dans un club comme Los Angeles FC, qui est évidemment un cran, voire deux crans en dessous de ce qu'il avait connu à Tottenham. Donc voilà, bon, je sais pas ce qui se passe exactement dans cette sélection des.
C'était lors de la Coupe d'Asie des Nations 2024.
Mais croyez-moi, on est sur vraiment un grand, grand gentleman.
En tout cas, effectivement, il doit faire honneur au pays, parce qu'il y a aussi une pression de dingue quand tu joues pour la Corée du Sud. L'attente est énorme. Et s'il y a une élimination prématurée, c'est la honte totale pour un pays. Voilà, c'est pas des.
Bah oui, mais c'est. Oui, non, mais t'as raison. Après, c'est vrai que par rapport au système un petit peu de cette Coupe du Monde à 48, s'il y a une élimination prématurée, ça serait très, très surprenant.
Et surtout qu'il y avait eu un résultat positif en 2022 et que. Là, la poule, elle est abordable. Quand on a vu le niveau de l'Afrique du Sud, on en parlera après. C'est déjà un match pour aller en 16e.
Après, c'est important de bien se positionner dans le groupe, justement, dans ce premier match.
Il tombe dans un groupe jackpot, quand même.
Ouais,
République tchèque, Mexique et l'Afrique du Sud. Pour la Corée, c'est un groupe quand même abordable où tu te dois de
sauf catastrophe, normalement, il devrait passer sans problème.
Merci beaucoup, Valentin. On te retrouve un petit peu plus tard. On va continuer à en parler.
Et la République tchèque, moi, il y a mon chouchou, Pavel Schulk.
Le Lyonnais.
Ouais, qui qui a fait une saison
très très belle saison.
Très très belle saison à Lyon. Quand il s'est blessé, ça s'est fait ressentir. C'est un joueur, moi, qui déjà il a un flow de dingue là, avec ses lunettes, ça peu coup et tout, mais ça me régale, moi, une petite coupe mulet et puis même le footballeur, l'intensité qu'il met, la qualité technique, l'efficacité. Il a émis un but très important contre le Danemark pour se qualifier à la Coupe du Monde, oui, dans un match où ils sont qualifiés au tir au but. Là, il est dans un rôle un petit peu
dans un poste qui est pas vraiment le sien,
ouais, qui est pas le sien, mais ouais, mais il est quand même très très polyvalent quand même, Pavel vrai. Schull, qui peut vous jouer faux numéro 9, mais là, comme il y a un numéro 9 avec Patrick Schick, il va être derrière pour essayer de le servir. Lui aussi, et comme Lee Kang-in, pour ceux qui suivent la Ligue 1, ça va être une attraction particulière pour ce match-là.
15 buts et 10 passes décisives en 42 matchs, et ça a été vraiment une totale réussite, ah ouais, son adaptation à l'Olympique Lyonnais.
Surtout dans ce poste de numéro 9, en fait, hein, parce qu'initialement, il joue quand même un cran un peu plus bas. Et là, c'est
la blessure avait fait du mal à Lyon.
Avec les carences que l'Olympique Lyonnais a eues en tant qu'attaquant de pointe, c'est vrai qu'il a bien pris le relais, il a fait une très très grande saison. Je pense que très peu de personnes l'attendaient à ce niveau-là.
Ouais, très bon choix au Mercato, effectivement. Il a fait beaucoup de bien à Lyon. Messieurs, dans quelques instants, on va continuer de parler évidemment de cette Coupe du Monde qui a débuté aujourd'hui aux États-Unis, au Mexique et au Canada. C'est faux. Focus effectivement sur le Mexique avec les deux premiers matchs de la première journée qui ont lieu au Mexique. Le premier a eu déjà lieu au stade Azteca. C'était absolument magnifique, la cérémonie d'ouverture. On va tout vous dire sur le Mexique qui a réussi son entrée dans la compétition face à l'Afrique du Sud avec un succès 2-0. On est ensemble pendant 2 heures avec Walid Acherchour et Maxime Chanon. On vous rappelle les horaires. Donc en France, on est ensemble jusqu'à 5h du matin et ici, nous sommes ensemble jusqu'à 23h heure américaine. À tout de suite sur RMC.
RMC, l'After Foot, intégrale Coupe du Monde.
Karine Galli. On est ensemble pour vous faire vivre cette première journée de la Coupe du Monde 2026. Vous le savez, RMC, radio officielle de ce mondial qui se déroule au Mexique, aux États-Unis et au Canada. C'est la première journée de compétition ici aux États-Unis. On vous accompagne au bout de la nuit pour les fêtards où on souhaite évidemment bon courage aux leftos qui partent au travail en ce vendredi. Messieurs, on l'a dit, la Coupe du Monde a été donc lancée. C'était ce jeudi au Mexique. La 23e Coupe du Monde a débuté dans un stade Azteca magnifique. Le stade était vert aux couleurs du Mexique. Le Mexique, on le rappelle, qui avait été éliminé de la phase de groupe de la Coupe du Monde 2022. Et bien là, ils ont réussi leur entrée en lice dans la compétition. Les Mexicains ont battu les Sud-Africains 2-0. Une victoire logique pour la sélection mexicaine. Quiñones a ouvert le score, puis il y a eu la tête de Raúl Jiménez, et on rappelle également qu'il y a eu 3 cartons rouges dans ce premier match, 2 expulsés côté sud-africain et 1 côté mexicain. Messieurs, vous avez aimé la prestation des Mexicains ou vous avez été très surpris de la faiblesse des Bafana?
Enfin, les deux, c'est dur de choisir, parce que l'Afrique du Sud, on les a quand même suivis pendant la CAN, ça a toujours été une équipe très naïve, mais qui techniquement était bien en dessous de leur standard cet après-midi. Ils ont fait un match catastrophique et ils sont pas rentrés dans leur Coupe du Monde. Ils ont été dépassés. On voit qu'il y a des principes de jeu bien établis, parce que les buts pris, notamment le premier, ça vient d'une relance.
C'est ça qui les plombe, en fait.
Et ça les plombe. Ça aurait pu faire la même chose, la même situation, début de deuxième mi-temps. Mais équipe trop naïve et qui techniquement a raté son rendez-vous. Et puis même, tu as eu un entraîneur, Hugo Broz, qui s'est complètement renié avec un système à 3 défenseurs, avec 2 attaquants qui se ressemblaient, pas de joueurs sur les côtés, mobiles, comme il pouvait faire à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Donc ouais, moi là, c'est vrai que l'Afrique du Sud n'est pas invitée pour ce type de rendez-vous et ils ont totalement été dépassés par une équipe mexicaine qui a fait son match. Il faut valoriser quand même le Mexique, mais ouais, très très déçu. L'Afrique du Sud a fait un non-match. Et ils ont fait honte à l'Afrique sur ce premier match. Ça, c'est la réalité.
Maxime, on en reparlera avec les deux autres nations qui sont les pays organisateurs. Le Mexique avait une pression de dingue. L'ambiance était folle, on l'a dit. Tout était vert aux couleurs du Mexique. Le stade Azteca, c'est un stade évidemment mythique. C'était la 3e Coupe du Monde organisée par le Mexique. Et pourtant, ils ont fait un très bon match. Ils ont bien débuté. Ils ont maîtrisé leur sujet. Est-ce que tu as été surpris finalement qu'il n'y ait pas du tout de moment de doute du côté du Mexique? Et on verra ce que donnera les États-Unis et le Canada demain.
Non, l'enseignement, en tout cas, qu'on peut peut tirer de ce premier match, c'est qu'en effet, comme l'a dit Walid très justement, je pense que le Mexique était bien supérieur à cette Afrique du Sud. Alors évidemment, il faut donner du crédit à cette équipe mexicaine. Ça aide aussi le fait de pouvoir jouer à domicile dans un stade qui était juste exceptionnel. Hein. Il faut aussi le remettre en avant. Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé l'ambiance. Vraiment, là, tu te sens vraiment que tu es dans une Coupe du Monde. Après, évidemment, le Mexique a été très forte. Moi, je rejoins Walid par rapport à la prestation de l'Afrique du Sud. Pour moi, c'est les Sud-Africains qui se sont plombés. J'étais très, très surpris aussi de l'entraîneur Hugo Broos, là, qui a décidé en tout cas de jouer de cette manière-là. On sait qu'en règle générale, quand tu commences une compétition, les 25 premières minutes, les 30 premières minutes, voire même la première mi-temps est très très importante pour justement bien rentrer dans ce tournoi. Et la manière dont ils se sont positionnés, la manière dont ils ont essayé de jouer, en fait, ils se sont plombés eux-mêmes. Donc il faut donner énormément de crédit au Mexique. On a eu deux joueurs particulièrement qui ont été très bons, Raúl Jiménez, et moi j'ai beaucoup aimé le petit Gutiérrez, l'ancien joueur de Chicago qui est maintenant aujourd'hui à Chivas, qui a fait un match incroyable entre les lignes. Mais c'est vrai que cette équipe sud-africaine, pour moi, a donné les clés justement aux Mexicains pour pouvoir gagner cette rencontre. J'ai pas vraiment compris, encore une fois, ils ont fait ces erreurs en début de première mi-temps, exactement les mêmes en début de seconde mi-temps. Enfin, c'est presque donné en fait les clés pour se faire battre.
Même les cartons rouges.
Et évidemment, j'allais revenir avec ça.
Le premier carton rouge, le deuxième, il rentre, je crois, au bout de 5 minutes, il te met un coup de coude.
C'était incompréhensible.
Il met une patate sur un premier match de Coupe du Monde. Non, mais on est où là?
On a manqué, enfin, en tout cas, les Sud-Africains ont manqué un petit peu d'expérience. Et je pense aussi que l'entraîneur Hugo Broos, il est aussi pour quelque chose dans sa tactique et aussi peut-être par rapport justement la manière dont son équipe est rentrée dans le match. Les Mexicains étaient bien au-dessus. Et c'est vrai que quand tu regardes à la fin de ce match-là, tu dis qu'honnêtement, ces deux équipes ne sont même pas du même niveau, en fait.
Et encore, on se dit ça. On se dit qu'il y a vraiment une différence de niveau entre l'Afrique du Sud et le Mexique. Et qu'entre le Mexique et beaucoup d'équipes de cette Coupe du Monde, il va y avoir aussi un vrai décalage. Donc, ouais. Moi, le Mexique, ils ont fait leur match. Bravo à eux. Parce que pas évident de rentrer sur un premier match à la maison de cette manière. En plus, ils co-organisent la compétition. Moi, j'ai trouvé que voilà, le stade magnifique, ça m'a rappelé plein de souvenirs. Le Mexique, ça reste une vraie sélection de Coupe du Monde, colorée. Et puis ils ont envoyé du jeu. Moi, je trouve que globalement, ce qui se passait au milieu de terrain, même le duo Quiñones-Jiménez, les occasions sont franches de la part du Mexique. Sacha, ils sont récompensés parce que sur le premier but, c'est un pressing haut. J'ai vu une équipe moderne avec encore des failles. Bien évidemment, c'est pas extraordinaire. Qualité technique, parfois un peu aléatoire. Je trouve que le ballon est cajolé dans certains crampons mexicains, dans d'autres c'est pas la même chose, c'est un peu plus brutal. Mais par contre, sur le match, il y a 5-6 occasions franches.
Ça peut faire 4, ça peut faire 5. Mais encore une fois, parce que les Sud-Africains leur ont donné aussi les clés.
Ah oui, bien sûr, bien sûr.
C'est très surprenant à ce niveau-là. Normalement, Wally, tu vas savoir lire ça.
T'as le poteau du Quiñones. Dès qu'il y avait un centre au deuxième poteau, c'était danger. Il y avait même en début de deuxième mi-temps, ça peut faire 2-3 sur un peu de... pas de feignantise, mais il y a eu un peu de condescendance sur certaines situations où le Mexique ne fait pas le bon choix. Mais globalement, il n'y a pas photo sur la rencontre et le Mexique mérite totalement sa victoire.
Avec peut-être un seul point négatif, c'est le carton rouge du capitaine, le défenseur central. Je pensais que c'était très très sévère. Après, quand on a re-regardé les images finalement,
il
je pense
but, que quand même, Mudao qui est l'un des seuls joueurs qui a
le carton rouge.
C'est vrai que dans les arrêts de jeu, il aurait pu s'en passer.
C'est embêtant.
Montes donc a été sorti à la 92e. C'est vrai que toi, tu voyais plus un match avec les deux équipes qui marquent.
Je voyais un truc un peu plus enlevé parce que l'Afrique du Sud est une équipe qui prend beaucoup de buts, mais qui peut mettre du danger. Et ça n'a pas été le cas. On a très très peu vu le gardien. Je sais même pas qui est le gardien du Mexique. Et par contre, je crois qu'Aguirre a dit en conférence de presse que il a déjà parlé du remplaçant. Du défenseur qui a pris le carton rouge, ça va être Edson Alvarez qui était
à la place de Montes,
qui était à l'Ajax et qui était à West Ham notamment, qui a fait Narbatch aujourd'hui.
Par contre, un autre enseignement, Karine et Walid, c'est qu'il va falloir quand même s'habituer à ce genre de scénario avec des équipes qui jouent en bloc bas. Ça a été le cas avec l'Afrique du Sud qui sont positionnées avec 5 défenseurs. Donc c'est vrai que cette Coupe du Monde à 48, alors elle est incroyable pour beaucoup d'équipes, ça leur donne l'opportunité justement de pouvoir jouer cette grande compétition. Mais en fait, je me questionne quand même sur le niveau global et général de cette compétition, sur en tout cas les phases de poule, et on l'a vu un petit peu avec la CAN où ça a commencé vraiment à jouer une fois que les petites équipes ont été éliminées. Et là, quand je vois ce genre de scénario, ce genre de match, je vais pas dire que je me suis ennuyé à un moment donné, mais c'est vrai que l'Afrique du Sud nous a pas montré aujourd'hui qu'elle était digne en tout cas de pouvoir jouer ce genre de compétition.
Bon, t'as oublié le gardien de but parce qu'effectivement c'est pas une star, c'est Rangel, mais vous voulez dire un petit mot quand même sur Ochoa, 6e Coupe du Monde. Alors, il n'est pas titulaire, l'ancien gardien notamment d'Ajaccio, mais c'est unique, c'est le premier joueur à participer à 6 Coupes du Monde. Toi, t'es T'es pas dans l'émotion.
Non, mais j'aime bien, c'est bien, c'est cool. Mais Moetchoa, on l'a vu à Ajaccio, très bien, etc. Après, j'en ai rien à cirer globalement. De...
Non, mais c'est le seul.
Oui, très bien, oui, bien évidemment. Mais après, moi, je vais bien dormir. Enfin, Ochoa, on va
c'est
pas le voir.
C'est un petit clin d'œil
non,
sympa.
On va pas le voir. Oh, c'est très sympa. Beau clin d'œil de ta part. Encore une fois, tu nous l'as remis sur ce, tu nous l'as remis au goût du jour et on l'avait oublié.
Bah, t'es quand même d'accord qu'aujourd'hui, quand on a regardé le match, il y avait énormément les projecteurs braqués quand même sur Ochoa.
Oui, oui. Enfin, les braqueurs. C'est quoi c'est qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? Il y a eu un dommage.
La télé le montrait beaucoup. Donc, je veux dire, c'est comme une légende mexicaine.
Faut pas oublier. C'est beaucoup plus facile de le faire quand t'es gardien de but, bien évidemment.
Oui, c'est quand même le seul à l'avoir fait.
Oui, après, il est au Mexique, dans un pays qui est pas... qui n'a pas une densité de gardiens complètement dingue. Mais encore une fois, moi, je ne lui enlève pas. Je dis c'est exceptionnel. Mais je dis juste que c'est des records, moi, qui me...
Tu ne te touches pas?
Bah non.
Ah ouais.
Non, non, je vais peut-être être froid et méchant, hein, mais peut-être que c'est pas...
Tu seras plus ému pour Messi et Ronaldo.
En tout cas.
Ah bah oui, parce que c'est quand même des mecs qui, ouais, entre
qui comptent pour leur équipe.
Bah oui, mais bon, là, le premier, qui compte pour, c'est Ochoa. Excuse-moi, oui. C'était le premier match, c'est lui.
Et pour revenir à Ochoa, il s'est battu, hein, pour être là, hein, parce que, oui. Battu, façon de parler.
C'est vraiment battu, j'étais...
Ça, on sait pas tout. Ce qui se passe au Mexique. C'est au Mexique. Non, mais il s'est battu dans le sens où il était en fin de contrat. En tout cas, il était sans club.
Il voulait entrer dans l'histoire.
Après son expérience au Portugal, je pense qu'il est resté un certain temps sans club. Derrière, il a rebondi en Chypre du côté de Limassol. Et ça lui permet justement de pouvoir faire partie de ce groupe mexicain pour cette Coupe du Monde. Et je suis d'accord avec Walid. Bon, finalement, c'est anecdotique. Il joue plus. En tout cas, on sait ce qu'il a fait en France et notamment du côté d'Ajaccio. Mais c'est très bien pour la petite histoire. Je pense qu'il faut savoir le mettre en avant.
Voilà, c'est un peu la petite phrase du commentateur à la 14e minute, quoi. Non, mais c'est celle-là où on disant mais moi, tu vois, qui est sur le banc et qui fait quand même sa 6e Coupe du Monde. Ah bah bravo, lui, extraordinaire. Bon, on peut regarder qui a le ballon quand même.
Mais non, je te trouve un petit peu froid, ouais.
Oui, froid,
comme ça,
oui, voilà. Je te taquine parce que t'es un peu fleur bleue aussi.
Ah, mais là-dessus. Oui, mais moi j'adore
t'es
les histoires.
T'es un peu la lavande.
Je suis très lavande vu que je viens du sud, bien évidemment. Et moi je suis très nostalgique.
T'es fleur d'oranger un peu, magnifique. J'ai envie d'apporter un contrepoids dans cette émission.
C'est
dans
délicieux
une posture.
Les biscuits avec de la fleur d'oranger à l'intérieur.
Exactement.
C'est magnifique.
Voilà.
Et c'est vrai que moi je suis désolée quand on a vu l'avant-match. Voilà. Évidemment, il y avait la cérémonie, il y avait tout le tralala. C'était
ça
magnifique.
Ça a son public. Je ne suis
et
pas de ce public-là.
J'ai bien
ça
compris.
A son public.
T'aimes pas les bouclettes. Tu
vois, très très impressionnant en Corse.
Ah, t'as bien vu ce qui
s'est passé.
Ah, ouais, très très.
T'as bien vu ce qui se passait sous le casque. Il n'y a pas les bouclettes.
Tu les as jamais eues, j'ai l'impression. Voilà, c'est ça.
Peut-être à 6 ans, peut-être.
C'est ça. C'est le manque de bouclettes.
Après 3 moblettes, j'avais peut-être des bouclettes.
Nous on va avoir des bouclettes parce qu'il fait très très humide et très très lourd ici. On en parlera d'ailleurs avec Valentin Jamin dans quelques minutes parce que ça peut jouer également pour l'équipe de France qui est à Boston. On vous attend au 32-16 hein, pour parler les bouclettes, mais pas que, pour parler foot également. On est ensemble en direct jusqu'à 23h heure américaine et jusqu'à 5h du matin heure française. Une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Karine Galli.
La Coupe du Monde est lancée, on va vous la faire vivre évidemment tous les soirs. Toutes les nuits de la Coupe du Monde sont à suivre sur RMC. On vous rappelle que du 11 juin au 19 juillet, vous connaîtrez tout évidemment. Toutes les coulisses de cette Coupe du Monde, vous suivrez tous les matchs. Et on est ensemble au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Ils sont là en pleine forme, en direct de New York, Walid Acherchour et Maxime Chanot. Messieurs, on a parlé des premiers matchs donc de cette journée. On vous le rappelle que dans un peu moins d'une heure, maintenant dans une demi-heure, coup d'envoi de Corée du Sud, République Tchèque comptant pour la première journée de compétition. Et le Mexique a réussi son entrée en lice dans ce mondial, dans son mondial, avec ce succès 2-0 face à l'Afrique du Sud. On va s'intéresser évidemment à l'équipe de France, les Bleus en quête d'une troisième étoile, la dernière compétition avec Didier Deschamps à la tête de cette équipe de France. Et on va retrouver Valentin Jamin. Alors c'est exceptionnel quand même, parce que Valentin Jamin, il y a quelques minutes, il était au Mexique avec nous. Et bien là, il est en direct de Boston. Valentin, ça va toujours bien? Le voyage s'est bien passé?
Tout va toujours très bien. J'ai ma Corée et ma République tchèque sur le bout des doigts. Et maintenant, je me suis focalisé sur l'équipe de France. Donc c'est magnifique.
Magnifique. Tu vas tout nous dire de l'équipe de France, évidemment, en lice pour une troisième étoile, avec un statut de favori comme d'autres nations. Et tu vas nous raconter un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est d'ailleurs donc le premier jour d'entraînement pour les Bleus. On rappelle qu'ils sont arrivés mercredi sur le sol américain à Boston. Hier, c'était un petit décrassage tranquille. Et là, ça y est, on rentre dans le vif du sujet.
Oui, hier, il y a eu récupération, activation musculaire, on nous a dit, pour faire tourner les jambes, mais avec le décalage horaire et l'arrivée en fin d'après-midi, on n'a pas fait sortir les joueurs qui, ce matin, se sont réveillés tranquillement, ont eu des activités obligatoires avec la FIFA, hein, les shootings photos, pour les opérations commerciales, pour les animations dans les stades. Donc ça, c'était ce matin. Ensuite, déjeuner. Et donc, l'entraînement pour cette équipe de France qui, pour la première fois, s'est rendue à la Bentley University, qui est à 20 km, une demi-heure de trajet depuis l'hôtel qui est dans le centre de Boston. Donc là, on est un petit peu plus au vert. Donc les Bleus ont découvert cette université qui est vide, hein. Il n'y a plus d'étudiants parce que là, c'est l'été. Ils ont été diplômés avec 4 terrains. Les Bleus vont se servir de deux, notamment un de baseball où ils vont faire un petit peu les échauffements, tout ce qui va être un peu plus musculaire ou un peu plus léger. Et puis il y a un terrain qui a été mis en place exclusivement pour le soccer. C'est très université américaine, hein. Maxime connaît peut-être.
Ouais, ça me rappelle mes années football, en effet.
Ouais. Non, mais c'est vrai, tout est mis en place pour le sport là, donc il y a de quoi faire de l'athlétisme. Il y a une grande piste d'athlétisme autour de ce terrain. Il y a de quoi faire du lancer de poids également. Bref, on va se concentrer sur le soccer pour les Bleus. On a changé la pelouse du côté de la Bentley
voilà,
University.
La pelouse, elle est nickel, ils sont contents les Bleus, parce qu'on sait qu'il y a des soucis parfois.
Pour l'instant, elle est très bien, mais l'université, franchement, a beaucoup travaillé là ces deux derniers mois parce que la France a demandé une pelouse, j'allais dire, un peu particulière, sans rentrer dans les détails, mais qui se rapprochait le plus possible du Gillette Stadium de Foxborough, donc le stade à Boston. Et donc, on a dû changer, bichonner, tondre la pelouse du côté des jardiniers jusqu'à la veille de l'arrivée des Bleus. On a dû également tracer des lignes de soccer parce que le terrain ne servait pas à ça. Donc, il y a des normes FIFA aussi sur la taille à respecter, etc. Mais tout s'est très bien passé aujourd'hui pour les Bleus. L'environnement est assez sympathique, il y a beaucoup d'arbres aussi autour, il y a quelques logements étudiants avec de la brique rouge, donc c'est assez vaste, mais ça reste assez chaleureux. Et donc le premier entraînement a lieu en plein après-midi pour l'équipe de France, en plein cagnard, pour tout vous dire, 32 degrés, beaucoup d'humidité, et ça va être un paramètre à prendre en compte parce que les Bleus vont peut-être ces prochains jours souffrir de la chaleur.
Alors justement, comment les Bleus ont réagi à cette première journée à New York et à Boston? C'est très important pour les Bleus. Il fait très humide, il fait lourd. C'est quand même compliqué de respirer. Ils vont devoir jouer un match, et un match très important et déjà ô combien compliqué face aux Sénégalais. Ils ont plutôt été bons dans ce premier exercice.
Oui. Oui, la gestion, en fait, elle a été anticipée, bien évidemment, par le staff. Donc, déjà, les entraînements, là, cette semaine, vont majoritairement, et d'ici mardi, face au Sénégal, avoir lieu à 15h, 15h30, parce que le match contre le Sénégal, il est à 15h, heure locale. Donc, l'idée, c'est de s'acclimater et de s'habituer à la chaleur. On a demandé à Brice Samba, qui nous a dit qu'évidemment, on les avait sensibilisés sur le fait de bien s'hydrater. Mais surtout, il y a une réunion exclusivement sur ça, ces dernières heures, pour expliquer aux garçons combien de litres, aux joueurs, combien de litres d'eau, par exemple, ils devaient boire, comment bien s'hydrater, comment ne pas perdre trop d'énergie, un petit peu toutes les précautions à prendre, parce qu'en plus de la chaleur, il y a l'humidité, hein, Maxime, tu connais ça aussi, mais on est aux alentours de 60%, je pense, donc on perd beaucoup d'eau en faisant rien.
C'est important de faire comprendre à nos auditeurs qu'il fait chaud, mais c'est une première chose, mais surtout il fait très très humide, et en fait c'est pas du tout les mêmes efforts lorsqu'il y a énormément d'humidité comme c'est le cas actuellement à Boston ou même aux États-Unis, et d'où les pauses fraîcheurs, en fait on les a critiquées, mais là pour le coup elles vont être super utiles. Mais c'est vrai qu'en règle générale, quand tu cours comme ça sous beaucoup d'humidité, que tu perds énormément de d'eau, et ça peut être vraiment préjudiciable pour évidemment pour la performance. Moi je me rappelle quand je jouais en Floride avec New York City ou avec Los Angeles, qu'il fallait presque s'arrêter tous les quarts d'heure pour boire parce que sinon t'étais pris de crampes. Donc voilà, encore une fois, c'est aussi l'adaptation des joueurs. Je pense que le staff de l'équipe de France est bien au courant de ça. C'est aussi la raison pour laquelle ils sont venus au mois de mars ici faire la tournée aux États-Unis. Mais ça va être encore différent entre le mois de mars où ils faisaient encore relativement bon. Là, c'est vrai que aux États-Unis, mais bon, ça va être la même chose pour les deux équipes, pour toutes les équipes. Et c'est vrai que c'est un facteur à prendre en considération.
Certains ont eu la Coupe du Monde
aux États-Unis pendant l'été.
C'est ce qu'ils nous disaient certains avec la Coupe du Monde des clubs l'été dernier, se rapproche plus des conditions. Mais c'est particulier. Ouais. Ils vont y être très très attentifs et ce sera un sujet à guetter ces prochaines heures évidemment.
Et pour terminer par rapport à la Coupe du Monde des clubs, le gros problème qu'on avait eu, c'était les pelouses. Et c'est important que t'en parles. La problématique de l'organisation ils avaient tout simplement mis de l'herbe sur le synthétique. Donc à chaque fois qu'on tacle, ils préfèrent l'herbe sauter, le synthétique apparaissait. Enfin, c'était vraiment un je t'en parle pas, c'était vraiment pas facile pour les appuis et surtout pour avoir de la qualité sur ces matchs-là. Mais c'est vrai que j'ai le sentiment que les États-Unis ont eu un an finalement pour préparer cette nouvelle compétition, en l'occurrence cette Coupe du Monde. Et j'espère sincèrement que tout ce qu'on a eu comme problème là l'été dernier, ça, voilà, c'est qu'un mauvais souvenir et que les joueurs vont pouvoir être absolument focus sur le terrain, parce que c'est vrai que quand t'es joueur et que t'as envie de jouer ce genre de compétition, t'as envie d'avoir tous les l'environnement à parfait. Et évidemment, je pense qu'aujourd'hui, avec cette équipe de France et justement le staff qui sait gérer tout ça, je pense qu'on va avoir une grande équipe de France au rendez-vous.
Alors Valentin, il y a plusieurs questions qui se posaient. Il y avait effectivement donc l'idée de la chaleur. Il y a aussi les distances qui peuvent poser problème aux US. Comment ça s'est passé là pour les Bleus? On a trouvé un petit peu long le trajet, visiblement, c'est ça?
Alors ça reste, c'est correct. Hein. Après, les Bleus ont fait le choix de se mettre en plein centre-ville. Honnêtement, c'est à côté d'un parc à Boston. On n'est pas très loin de nous, donc on est vraiment en plein cœur de la ville. Et donc je vous le disais, c'est une vingtaine de kilomètres. Donc ça dépend déjà de l'heure à laquelle on part. Il peut y avoir quelques bouchons. Les Bleus ont une escorte policière, mais on les escorte en gros aux États-Unis, de ce que j'ai compris. Là encore, Maxime, tu me diras, mais c'est assez réglementé. On peut pas faire n'importe quoi, rouler à toute allure, etc. Donc on est sous, il y a une escorte, mais il y a quand même un certain temps. On nous a dit une grosse demi-heure pour arriver au centre d'entraînement, donc rien de bien grave. Mais c'est vrai qu'il faut pas que ça prenne beaucoup plus de temps. Et d'ailleurs, la fédération, le staff a bousculé un petit peu le programme de demain, puisque il devait avoir conférence de presse à 10h30, entraînement à 15h en public, et finalement on a rapproché la conférence de presse de l'entraînement, on l'a mis à 14h parce qu'on a estimé que niveau circulation ce serait plus simple, notamment pour amener les joueurs, et qu'aussi sûrement que ça évite un aller-retour et que ces joueurs concernés par la conférence de presse ne passeront pas 2 heures dans les transports. Donc on est encore un peu dans l'adaptation, il y a rien du tout de, il y a pas de sujet grave, hein, mais il y a encore voilà des petites choses peut-être à peaufiner dans l'organisation, parce que on est en plein centre-ville ici.
Et là où je te rejoins, alors on va pas créer une polémique là où est-ce qu'il devrait pas en avoir, mais c'est vrai que d'avoir choisi cet hôtel en plein centre-ville de Boston, je trouvais ça un peu surprenant, parce qu'on le sait, aux États-Unis tout est très loin, et tu l'as très justement dit, les temps évidemment de trajet sont supérieurs que ce que tu connais en Europe. Mais c'est vrai que connaissant Didier Deschamps et le staff en règle générale, d'avoir choisi cet hôtel au milieu de la ville avec le trafic, je me pose quand même des questions.
C'était peut-être pas le meilleur choix. Un mot justement aussi, Valentin, parce que moi je suis assez surprise des images que l'on voit, notamment grâce à vous qui êtes reporter en direct de Boston. C'est la folie. J'ai l'impression que c'est des rockstars, les Français, lorsqu'ils arrivent à l'hôtel, lorsqu'ils sortent de l'hôtel. Donc, qui sont ces gens qui sont présents devant l'hôtel des Bleus depuis leur arrivée?
Alors pour le coup, c'était vraiment à l'arrivée des Bleus. C'est vrai qu'il y avait 200-300 personnes, beaucoup de gens qui étaient venus pour voir Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, qui ont crié. Aujourd'hui, il y avait quand même moins de monde devant l'université. On était plutôt sur une dizaine de personnes, donc ça va peut-être s'atténuer un petit peu. Qui sont ces gens? Alors Florent Germain et Arthur Perrault notamment, qui étaient de très très près puisqu'ils étaient vraiment quasiment dans le hall, ont vu pas mal d'expatriés ou de Français qui sont en vacances de passage, etc., et qui voulaient voir les Bleus. Il y a aussi des fans de soccer américains, et il y a également, moi j'en ai vu ce matin, des supporters écossais. Et oui, parce que l'Écosse va jouer après-demain contre Haïti ici même, et honnêtement, ils sont très très nombreux en ville, et eux ils aiment le foot, donc ils sont venus voir. Il y a un petit peu un mix de tout ça, pas mal de Français, quelques curieux américains, mais qui connaissent les superstars françaises plutôt, et puis des fans de foot qui viennent peut-être de l'étranger pour voir du foot et qui vont venir comme des curieux voir l'hôtel des Bleus.
Pour avoir marché à Manhattan, Karine, de ce matin, il y avait énormément de maillots écossais. Je suis d'accord avec toi, j'ai été très très surpris.
Ah aussi. Alors que pourtant, il y en a aussi qui ont été refoulés. On rappelle, hein, il y a eu des problèmes d'Esta qui ont été annulés au dernier moment. On avait pu lire ça sur rmcsport.fr. Mais bon, on sait que les Écossais se déplacent toujours en nombre. Walid, le côté rockstar des Bleus?
Ah oui, bah c'est plutôt
logique. Mais t'étais surpris?
Non, c'est logique. Moi, je trouve que c'est logique quand même. Il y a des... Kylian Mbappé a toujours eu cette... cette affiliation avec les États-Unis, ça a été naturel depuis le début. Il a fait beaucoup d'OP publicitaire sur les dernières années. Le Paris Saint-Germain, je pense, moi, avec la Coupe du Monde des clubs l'année dernière où ils ont fait finale, dégage quand même une sympathie. Et puis l'équipe de France, ça reste l'équipe de France. Sur les dernières années, ils ont fait finale 2022, ils ont gagné en 2018. S'il y a bien quand même une sélection qui normalement est arrivée dans le salon de certains Américains, c'est quand même l'équipe de France. Donc non, pas surpris.
Et puis il faut pas aussi oublier justement le poids extra-sportif qu'ont ces joueurs. Hein. T'as parlé de Kylian Mbappé. Enfin, c'est presque aujourd'hui, ils ont un point de vue marketing, on va dire. Honnêtement, c'est les Français, c'est les numéros un. Hein. C'est les numéros un. Donc je peux comprendre en tout cas moi cet engouement autour de cette équipe de France. Et puis ça prouve aussi la portée justement du football actuel aux États-Unis. Voilà. Donc on a la chance en tout cas d'avoir ce genre de joueurs.
C'est le premier match. Ce sera pas le premier match au MetLife Stadium. Il y aura Brésil-Maroc avant.
D'accord. Oui.
Ok.
Mais la France commencera sa compétition effectivement. Au MetLife Stadium avec ce France-Sénégal. On le rappelle, ça sera le 16 juin. Nous avons une star également qui est avec nous. Un petit peu plus loin. Elle n'est pas à Boston. Elle n'est pas à New York avec nous. Elle est à Mexico. C'est Jean-Louis Tour qui commente évidemment les Bleus, qui nous entendait parler de l'effervescence autour de Kylian Mbappé et qui avait envie d'être avec nous, bien sûr. Ça va, Jean-Louis?
Oui, salut Karine, salut tout le monde. Ah non, c'était pour vous parler de la photo au Mexique, là.
Ben oui, mais c'est très bien. T'es où? C'est sur la place de la Constitution, c'est ça? Où es-tu?
Non. Alors je suis pas loin de la place de l'Ange de l'Indépendance. Où en fait les Mexicains ont l'habitude. En fait, je me demandais après le match si les Mexicains allaient fêter cette victoire comme une grande victoire en Coupe du Monde, et donc se rassembler dans cette fameuse place, un peu comme les Champs-Élysées pour nous, où ils vont fêter les grandes victoires. Et ben, je peux te dire qu'ils y étaient. Ils y étaient très vite après le match, sous des trompes d'eau. Donc ça signifie vraiment quelque chose qui s'est passé. Et donc ça, c'était tout à l'heure, donc juste après le match. Et là, je suis dans les rues, toujours dans le centre, un peu dans la partie nord. Et je peux te dire qu'à chaque coin de rue, c'est la folie. Ça chante, ça klaxonne, ça continue de débattre autour du match et de faire la fête. Et je pense, là, il est pas loin de 20h, heure du Mexique, qu'il va y avoir une grande nuit de fête pour tous les Mexicains qui ne galvaudent pas du tout cette victoire. Pour eux, c'est un truc vraiment important qui s'est passé.
Moi, j'aime bien ça, j'aime bien. Moi, je le disais tout à l'heure, mais de voir le Mexique démarrer cette compétition, qui est un vrai pays de foot, contrairement au Canada, il y a quand même une vraie
culture foot.
Culture foot.
Oui, mais c'est pas le même niveau.
Mais en tout cas, des trois, c'est quand même le Mexique qui a vraiment un appétit et une histoire pour ce sport. Je suis content, moi, que Jean-Louis nous rappelle ça, qu'on voit ces images là, cette cérémonie d'ouverture et ce match contre l'Afrique du Sud. Je trouve que ça envoie quand même un bon signal par rapport à tout ce qu'on a entendu, notamment ici avec la NBA et tout le tralala. Je suis content, moi.
Faut pas oublier aussi que c'est une force, hein, évidemment, de recevoir la compétition. Et là, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut qu'ils arrivent à capitaliser justement un petit peu sur l'engouement qu'a le Mexique et les Mexicains en règle générale pour le football. Et je suis d'accord avec toi, c'est très très bien en tout cas que les Mexicains commencent en tout cas avec cette victoire.
Alors que c'est le vrai pays de foot, ouais, dans les trois, on le rappelle. Ouais. Mais ils ont eu cette cérémonie d'ouverture. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a senti qu'il y avait une immense fierté. Ils l'ont beaucoup répété. C'est la troisième Coupe du Monde qu'ils accueillent. Le Mexique est un pays de foot. Et on l'a vu avec ce stade Azteca qui est un monument évidemment pour tous les amoureux du foot. Et cet après-midi, c'était absolument incroyable les images qu'on avait de ce stade qui était tout vert, qui était plein. Les gens qui sont aussi aux couleurs du Mexique depuis plusieurs jours, ils attendaient le lancement de cette compétition.
Ouais, alors je mets quand même un bémol. Tout ce que vous dites, c'est vrai, bien sûr, c'est un pays de foot. Et franchement, moi j'ai pris une vraie claque au moment d'approcher du stade, de voir toute cette marée verte. C'était vraiment exceptionnel. Tous les gens qui étaient au taquet, tout l'avant-match, ils ont mis une ambiance folle. Le début du match aussi, j'ai eu des frissons. C'était d'être dans le stade à ce moment-là, c'était exceptionnel. Je mets un bémol quand même, c'est pendant le match. Il n'y a pas eu non plus pendant le match le maintien de cette pression en permanence. Et je pense que c'est dû, et c'est le gros bémol de cette Coupe du Monde partie mexicaine, à cause du prix des places. Je pense qu'on n'avait pas des supporters venus des classes très populaires qui garnissent les stades toute l'année et qui supportent leur club. Du coup, on a eu un public un peu plus aisé. Vu le prix des places, c'est normal aussi. Ils ont quand même réussi à remplir 80 000 personnes. Mais ça a donné une ambiance que je m'attendais un peu plus le feu tout au long de la rencontre. Et on a eu un truc un peu plus calme finalement.
Mais c'est ce genre de scénario, on va le voir, je pense, aussi sur pas mal de matchs. Hein, tu l'as dit, aujourd'hui, le prix des places, ça va être une vraie problématique, en tout cas, pour beaucoup de personnes. Hein. Là, moi, je regardais les places de l'équipe de France, le prix. Enfin, je me mets à la place du supporter de foot lambda. Je vois pas qui peut être en mesure de pouvoir acheter.
T'auras pas d'ultra.
C'est sûr. Ça, je pense qu'il faut qu'on s'y habitue à ce genre de scénario.
Ouais. C'est un peu le problème. Ouais. On en a parlé de la grille tarifaire.
C'est dommage que ça casse un peu le champ.
Ça ouvre 2-3 tiroirs, c'est vrai, parce que surtout que.
Et surtout quand je vois l'ambiance qui est mise dans les rues là ce soir, je me dis que si tous les gens qu'on croise dans la rue là, on les avait mis au stade tout à l'heure, ça aurait été une vraie folie.
On est très très loin de la Coupe du Monde populaire, ça c'est une réalité.
C'était prévisible en tout cas. Ouais.
Merci beaucoup Jean-Louis d'avoir été avec nous pour nous donner un petit peu l'ambiance au Mexique après cette. entrée en lice réussie, on le rappelle, avec ce succès 2-0. Vous le savez qu'il y a ce deuxième match au Mexique qui va commencer dans un quart d'heure, Corée du Sud, République Tchèque, ça c'est à Guadalajara. Et on peut voir également dans les tribunes qu'il y a aussi des Mexicains, hein, donc, parce que les Mexicains, même s'ils n'ont pas pu forcément avoir des places pour le match de leur équipe, ils ont envie de participer à la fête et ils se sont déplacés à Guadalajara. On est toujours évidemment avec Valentin Germain également en direct de Boston, qui nous donne des nouvelles des Bleus. Valentin, on l'a dit, c'était le premier jour d'entraînement pour l'équipe de France. Pas de bobo, tout le monde va bien ?
Tout le monde était là, les 26, notamment William Saliba, Jules Koundé, tout le monde a commencé l'entraînement. Il y avait un quart d'heure ouvert aux médias. Donc du côté du staff, ce qu'on nous fait passer comme signal, c'est qu'il n'y a pas d'inquiétude sur les joueurs. Même si avec le voyage, la chaleur, les matchs amicaux, certains ont peut-être des petites gênes, des petits pépins. Donc Adrien Rabiot et William Saliba, par exemple, n'ont pas participé à une partie de certains exercices et ont plutôt couru à côté. Mais honnêtement, il n'y a aucune alerte à avoir et... on est plus sur de la précaution. Donc la bonne nouvelle pour Didier Deschamps, c'est que pour l'instant tout le groupe est là, tout le groupe répond. On verra comment chacun réagit éventuellement à la chaleur, mais tout le monde était là sur la séance d'une heure et tout le monde devrait être là également demain. Ce sera en public, donc là on verra aussi à qui on aura affaire, notamment des jeunes qui pourront voir l'heure d'entraînement qui a été ouverte par la Fédé, la FIFA, et donc ça devrait nous donner des images aussi un petit peu sympas et avec des supporters un peu plus proches justement des joueurs.
Et il y a eu également une petite zone mixte d'organiser avec deux joueurs, hein, Lacroix le défenseur et Brice Samba le gardien. Rien de transcendant dans leurs propos, pas de nouvelles polémiques. Voilà, on est resté très classique langue de bois. Bah,
on les sent contents de l'accueil, en tout cas, de comment ils sont hébergés. Brice Samba nous a parlé de l'accueil dans la chambre d'hôtel, les petits cadeaux qu'il pourra donner aux enfants. Ils ont été aussi impressionnés par le côté très vaste de cette université. Tous les deux, ils nous ont dit naturellement, ah, c'est très grand. Donc il y a eu ces questions-là. Il y a eu la question de la chaleur aussi. Brice Samba n'a pas été alarmiste, on en a déjà parlé, mais il a dit que tout le monde avait bien reçu les conseils. Donc on sent quand même de l'excitation. Maxence Lacroix nous a dit, à chaque fois c'est un petit peu la même phrase, mais voilà, là ça lance un peu le mondial aussi, encore un peu plus, parce que tu t'entraînes sur le camp d'université que tu es censé avoir pendant quasiment un mois. Donc c'est encore une étape de plus vers l'entrée en lice. Et peut-être que ça commence aussi un peu à être long dans les têtes. Donc ils ont envie de se lancer. Bon, on les a sentis assez positifs et assez contents de l'accueil et d'être là.
Merci beaucoup Valentin, on te retrouve dans moins d'un quart d'heure pour le coup d'envoi de Corée du Sud.
Change de casquette.
Tchèque. Exactement, tu retournes au Mexique pour nous faire vivre donc ce deuxième match de la compétition. Messieurs, vous savez, les projecteurs sont également braqués sur Kylian Mbappé, c'est sa première compétition Coupe du Monde en tant que capitaine, il avait déjà fait l'Euro. Il veut évidemment briller après 2018, après 2022, place à 2026. Il a été interrogé au micro d'M6, on écoute le capitaine des Bleus.
C'est juste, comme ils disent, en 2018, pas mal de joueurs disaient, pour les plus anciens, les joueurs avec de la bouteille. Je pense que je commence à être un joueur avec de la bouteille. Mais non, je suis très content, très content. C'est vraiment un plaisir. Je pense plus de guider les jeunes joueurs. Je pense plus sur l'aspect émotionnel, parce que je pense que s'ils sont là, c'est qu'ils sont des bons joueurs. Je pense que vous voyez la qualité qu'il y a dans cette équipe. Je ne vais pas leur apprendre à jouer au foot, ce serait une erreur. Mais le côté émotionnel d'une Coupe du Monde, de savoir que le monde s'arrête pour te regarder, c'est quelque chose que tu dois savoir gérer, que tu dois savoir apprivoiser et que ça ne te fasse pas perdre tes moyens. Parce que c'est le plus grand adversaire dans une Coupe du Monde, ce n'est pas forcément l'autre équipe.
Il a 27 ans, Kylian Mbappé, il va vivre sa troisième Coupe du Monde. Il parle du fait qu'évidemment, un mondial peut te faire basculer dans une autre dimension. Ça avait été le cas, lui, en 2018. Il y a aussi le fait qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui vont disputer pour la première fois une Coupe du Monde et certains pour la première fois même une grande compétition. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette prise de parole du capitaine qui, lui, est sur le grill, hein, quand même, avant le mondial?
Je trouve qu'elle est bonne, moi. Je trouve qu'elle est bonne, surtout sur l'aspect mental et émotionnel de ce que représente une Coupe du Monde. Moi, je parle souvent avec des joueurs de foot qui ont connu le football de club et le football de sélection. Ils te disent que le football de sélection est très très dur émotionnellement, parce que là tu représentes un pays, là tu joues pas pour un club où, je vais pas dire que c'est confidentiel, mais c'est beaucoup moins prenant. Là tu parles à la ménagère, tu parles à toute la famille, en fait, de la maman, du papa, jusqu'au petit-fils, ou en quart de finale de Coupe du Monde, tout le monde est devant la télé, tout le monde a un avis sur le foot, et c'est vrai qu'il y a une pression populaire qui est très très différente, et il y a un changement de paradigme positivement ou négativement qui est très très différent. Et moi je trouve ça intéressant, parce que dans le rapport de force qu'on met sportivement en ce moment entre les joueurs du Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, parce que les joueurs du Paris Saint-Germain ont gagné la Ligue des Champions, je trouve que là il envoie quand même une force et une transmission à ces joueurs-là, parce que la Coupe du Monde, c'est autre chose. la Coupe du Monde, c'est différent en termes de pression, comme je viens de l'évoquer. Et ça, il peut peut-être l'apporter aussi à Dembélé, comme Dembélé peut lui apporter autre chose sur l'aspect défensif, parce qu'en ce moment, on les met beaucoup en comparaison. Et je trouve que sa prise de parole est bonne, moi.
En tout cas, pleine d'humilité. Et j'ai le sentiment qu'il a vraiment compris quel était le rôle d'un capitaine. C'est vrai que, comme Walid l'a dit, il y a justement ce débat qu'on a aujourd'hui sur le terrain entre les joueurs du Paris Saint-Germain et le cas Kylian Mbappé. J'ai envie de mettre ça sur le côté. En tout cas, on sait aussi qu'on a longtemps critiqué un petit peu la communication de Kylian. Et là, aujourd'hui, la manière dont il se positionne, moi, je trouve que c'est plein de modestie. Et je pense qu'il faut surtout lui admettre et le reconnaître qu'aujourd'hui, il prend son rôle à cœur. C'est là que je me dis quand même que le football va vite, hein, parce que se retrouver dans une situation, j'ai le sentiment de revoir encore un Kylian Mbappé tout jeune, être le petit jeune justement de cette équipe nationale, on se rappelle de 2018, et c'est vrai qu'aujourd'hui, le voir un peu leader cette équipe.
Mais c'était il y a 8 ans, c'est bien.
Ouais, mais c'est vrai que c'est là que je me dis qu'on vieillit, en tout cas, ça passe très vite. Mais en tout cas, non, c'est très, très important pour revenir à Kylian Mbappé qu'il arrive à avoir cette mentalité. J'ai quand même un point d'interrogation par rapport à l'aspect sportif, une fois que le premier match va commencer, parce qu'on sait aussi que la saison de Kylian Mbappé, d'un point de vue trop a été quand même vierge comparé à ce qui s'est passé avec les joueurs du Paris Saint-Germain. Donc voilà, maintenant il va falloir qu'il arrive à mettre son côté personnel de côté pour être un petit peu plus altruiste. Mais en tout cas, ce qu'il nous a montré derrière les caméras et la manière de communiquer est bonne pour l'instant.
Le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs quand même qui vont jouer pour la première fois une Coupe du Monde, Wally, tu penses que ça a un impact sur certains? Manu Koné, il y a les Parisiens, t'en as parlé, la Doué Barcola, il y a aussi Olise. Il y a beaucoup quand même de joueurs, ouais, c'est leur première.
Il y a une incertitude. Après, t'as quand même Upamecano qui était là en 2022. T'as quand même des joueurs qui ont connu au moins l'Euro. Et peut-être pas la Coupe du Monde. Jules Koundé était là à l'Euro, était là à la Coupe du Monde. T'as Théo Hernandez qui a connu la Coupe du Monde 2022. Tu vois, Meni qui a connu la Coupe du Monde 2022. Il y a quand même un socle, je vais pas tous les faire, mais qui normalement doivent apporter une sérénité, une tranquillité autour des nouveaux. Mais c'est vrai qu'il y a une incertitude là-dessus. Soit tu le prends avec beaucoup d'insouciance, soit tu deviens un joueur qui est inhibé et qui ne joue pas son football. Bon, globalement, un mec comme Doué ou même un mec comme Manu Koné, j'ai un peu moins de...
T'as aucun doute pour toi? Tu te dis c'est évident, mais c'est que le costume...
Non, pas évident. En fait, tout va dépendre du premier match. C'est pour ça que le premier match est très important. C'est que si ça gagne contre le Sénégal, ce sera quand même très très différent. Maintenant, si ça commence à se tendre et que tu fais dans la fameuse théorie de Maxime de 2002, si tu perds contre le Sénégal d'entrée, là oui,
ça, si tu perds 1-0,
ça peut commencer à se tendre.
Mais en tout cas, c'est important d'avoir un mix justement de joueurs avec ceux qui ont un peu plus d'expérience et puis évidemment la jeunesse, parce que ça apporte quelque chose de différent. Après, quand tu regardes intrinsèquement ce groupe individuellement, Karine, c'est tous des joueurs qui jouent au très très haut niveau. Donc même pour ceux qui n'ont pas encore connu de Coupe du Monde, finalement ça reste un match de foot. Bien l'idée évidemment, on l'a dit, par les leaders, par des Kylian Mbappé, par des Ousmane Dembélé Ballon d'Or, par des Mike Maignan qui est quand même de la bouteille. Pareil pour Saliba ou Upamecano. Enfin, c'est des joueurs qui chaque week-end jouent contre des grandes équipes, contre des grands joueurs. Mais en tout cas, moi j'aime bien ce que nous montre aujourd'hui cette équipe de France. En tout cas à l'extérieur du terrain, j'ai bien dit à l'extérieur du terrain, parce que c'est vrai que j'ai des points d'interrogation sur ce qu'on a vu sur les deux derniers matchs amicaux, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, l'équipe a l'air de bien vivre. Maintenant, il n'y a plus qu'à le matérialiser sur le terrain, entre guillemets.
On rappelle, entrée en lice des Bleus, ça sera mardi face au Sénégal. Ça sera vraiment à quelques centaines de mètres de notre studio magnifique que l'on a à New York, parce qu'on voit.
Mais je me posais la question justement, vu le prix des places, je me dis peut-être que je vais le regarder du bureau. Tu vois.
Bah a priori, de toute façon, tu vas le regarder du bureau, je te confirme.
Pas que sur là.
Que tu n'as pas de place.
Voilà. Ah mince.
Donc, c'est la limite, tu vois.
Ouais. Mais, en tout cas, c'est juste à côté, en effet.
Ah oui, là, on le voit, on a l'impression qu'on pourrait le toucher. On est à 200 mètres du MetLife Stadium qui accueillera donc les Bleus pour ce France-Sénégal remake de 2002. Messieurs, il y a la Coupe du Monde, mais pas que. Il y a évidemment toutes les actus foot également et une actu ô combien importante pour l'avenir du Real Madrid. Ça y est, c'est officiel. Mourinho est bien de retour. Contrat jusqu'en 2029 pour le Portugais, lui qui avait évidemment déjà entraîné le Real Madrid. Ça y est, c'est acté, messieurs. Vous étiez pas très partisan pas très dans la nostalgie. J'adore.
On en avait parlé. Moi, c'est un coup à tenter. De toute façon, aujourd'hui, avec le marché des entraîneurs et surtout la non-compatibilité qu'ont les entraîneurs à coacher au Real Madrid. Il y a pas 10 000 choix. Moi, je pense à Jurgen Klopp quand on en avait parlé cette année, même à Unai Emery dans l'idée. Mais on sait très bien que le vestiaire peut bouffer n'importe qui comme coach, surtout avec un président. Parce que pour moi, le problème principal, c'est le président Florentino Pérez qui est complètement cuit et qui a encore montré là avec son histoire de Julian Alvarez sur les réseaux sociaux, avec son communiqué qu'il avait le capot qui fumait et qu'il n'était plus le grand président. Président qu'il a été, un peu comme Jean-Michel Aulas à l'Olympique Lyonnais. Mais voilà, Mourinho, c'est une attraction. C'est une attraction.
Ah oui.
C'est une attraction et on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il a compris ce qui n'allait pas au Real Madrid? Est-ce qu'il va couper des têtes? Est-ce qu'il aura la légitimité pour couper des têtes?
Je pense qu'il l'a.
Oui. Enfin, est-ce que Florentino Pérez, quand demain faudra choisir entre Vinicius Mbappé ou Bellingham sur un gros match, est-ce qu'il aura les pleins pouvoirs ou est-ce qu'il aura les mains liées? C'est la grosse question. De toute façon, on va attendre patiemment.
Maxime, Mourinho a 63 ans, parce qu'on a parlé aussi de l'âge, des décalages, du fait qu'il peut être un petit peu dépassé. Il prendra ses fonctions le 13 juillet, et puis il avait évidemment entraîné le Real de 2010 à 2013. C'est quand même un retour incroyable. Là, il était au Benfica, il revient dans le plus grand club du monde. Ouais, tu sais, il est immortel.
Bah, tu connais mon avis, hein. Je suis pas très très fan de faire du neuf avec du vieux. Maintenant, c'est vrai qu'un point de vue d'ego, est-ce que finalement Mourinho n'est pas le mieux placé pour essayer de remettre ce Real Madrid sur les rails, parce qu'on sait les problèmes qu'il y a dans ce vestiaire. Après, quand tu regardes un petit peu les deux dernières expériences, que ça soit du côté de Benfica ou de Fenerbahçe, bon, ça n'a pas été non plus très très glorieux hein, pour Mourinho. Voilà, j'ai envie de lui donner malgré tout du crédit et de me dire que par son expérience et surtout son caractère et sa mentalité, il va arriver justement à redonner des couleurs à ce Real Madrid qui en a bien besoin.
L'une de ses premières recrues, ça pourrait être Bernardo Silva, 32 ans au mois d'août. Libre, parce qu'il a quitté Manchester City.
Ils vont enchaîner les profils libres, Konaté, Bernardo Silva.
Ça vous plaît Bernardo Silva, le portugais sous les ordres du
PSG? La PlayStation, ça m'aurait plu. Après, c'est vrai que dans le...
Parce que pour toi aussi, il est déjà bouilli.
Non, c'est un top joueur, mais tu sais que les trentenaires et plus, moi je suis pas un grand fan actuellement par rapport justement au rythme du football qui est imposé aujourd'hui. Alors c'est un super joueur, je l'adore, il a une carrière exceptionnelle et notamment du côté de Manchester City. Maintenant, est-ce que le Real Madrid n'a pas tout à gagner justement à rajeunir, même s'il y a énormément de jeunes, attention, à rajeunir un petit peu ce vestiaire de manière à justement pouvoir essayer de catch up ce que le FC Barcelone nous montre là depuis quelques saisons.
C'est un profil qui peut être intéressant au Real Madrid. Pourquoi pas? Moi, j'aime beaucoup le joueur. Maintenant, à voir comment il va être utilisé. Est-ce qu'il va être utilisé dans un double pivot un peu plus bas, comme ce qu'il a fait à Manchester City? Parfois, il a un peu le côté toupie Beyblade, la toupie un peu qui tourne autour de lui et qui tourne en rond, qui est un peu stérile. Mais c'est un joueur peut-être.
C'est un super joueur, attention.
Mais c'est un joueur qui, techniquement, peut faire aussi du bien au Real Madrid, je pense. En tout cas, c'est un profil qui n'existe pas.
C'est un profil, en tout cas, qui pourrait correspondre au Real Madrid. Un dernier petit mot, parce que vous le savez, Lens a besoin d'un entraîneur.
Oui.
Vous savez qui est sur les tablettes.
Top Moller,
libre depuis janvier et donc son départ de Francfort. Il parle français, donc c'est évidemment une très bonne chose pour Lens. Et il est pisté par le club nordiste. Vous trouvez que c'est une bonne idée?
Bonne idée, mais ce que je ne comprends pas, c'est que c'est deux profils totalement différents avec Pantaloni, quoi. Et Cahuzac, sur deux. Là, on est sur les jus de fruits, les sodas, quoi. C'est-à-dire qu'il y a pas du tout la même identité sur la direction que veut prendre le club.
Ouais. Mais est-ce qu'il ne faut pas regarder plutôt sur la suite de justement ce qui a été fait avec Persaj?
Parce que
Pantaloni, c'était déjà un grand écart. C'est lui qui est arrivé.
Moi, après, je connais pas du tout. Enfin, je connais globalement, mais pas assez pour avoir un avis tranché sur ce coach-là. Mais en tout cas, on est sur deux profils totalement différents.
Et puis, on est surtout sur un contraste complet du fait d'avoir ramené Cahuzac. Donc, en fait, c'est vrai que tu ramènes Cahuzac dans l'optique, j'imagine, de le mettre numéro 1 à terme. Alors, je sais pas sous combien de temps.
Peut-être dans deux ans.
Donc, c'est vrai que d'avoir Pantaloni à côté de lui, même si moi, je me suis positionné peut-être un peu trop franchement, d'ailleurs, en pensant que c'était pas forcément l'homme de la situation, Pantaloni, dans un club comme Lens. Non, pas encore, mais j'ai fermé le portable, c'est pour ça, je l'ai éteint. J'ai bloqué son numéro. Non, mais pour être plus sérieux, c'est vrai que dans la suite logique du départ de Pierre Cahuzac est arrivé juste avant le départ de Pierre Sage, ça pouvait être logique en tout cas d'avoir Pantaloni qui pouvait entre guillemets biberonner au même titre que ce qu'il a fait à Lorient, du côté de Lorient, Cahuzac, pour que dans plusieurs années, en tout cas dans quelques saisons, Cahuzac puisse prendre le relais. Là, c'est vrai que de ramener Top Moller, moi que j'ai connu du côté de la Belgique parce qu'il était entraîneur à Virton dans des petites divisions à l'époque, il a fait du très bon travail jusqu'à aller à Francfort, j'avais été très surpris, mais c'est vrai que dans le projet, je comprends pas vraiment le choix d'aller vers
Top. Moi, j'ai l'impression quand même qu'on veut diffuser le doute. C'est-à-dire qu'on est sur des informations peut-être qui sont pas concordantes. Il y a peut-être des avis différents au club entre le choix de Cahuzac et de Pantaloni et qu'on veut envoyer comme ça une information différente.
Donc tu es en train de nous dire que les dirigeants au RC Lens ne sont pas tous d'accord et unanimes sur Pantaloni, c'est ça ?
C'est pas une information, mais c'est
une tendance.
C'est mon analyse. Non, c'est mon analyse.
D'accord. Je l'interprète comme ça.
En fait, quand il y avait, je crois qu'il y avait Videra et donc
Parce que Videra reste au Mans, on le rappelle.
Videra, Pantaloni et Cahuzac. Parce que Pantaloni et Cahuzac, c'est Cahuzac et Pantaloni. Quand on envoie un autre profil comme ça, je trouve ça étrangement.
Et c'est drôle parce qu'on a longtemps mis en avant la symbiose un petit peu des dirigeants lensois et là on se rend compte quand même qu'il y a peut-être ça roule peut-être pas aussi bien dans les bureaux au Racing Club de Lens.
À suivre en tout cas dans Top Müller, c'est une information de la Voix du Nord. En tout cas, le RC Lens est à la recherche de son nouvel entraîneur. Merci beaucoup Walid d'avoir été nous. La deuxième heure de l'after dans instants évidemment. Et Kevin Diaz qui revient pour le coup d'envoi. Corée du Sud, République Tchèque. On est sur RMC en direct. À tout de suite.